SBS Radio.
On passe maintenant à la revue de l'actualité du Pacifique avec Élodie Largenton. Bonjour Élodie.
Bonjour, bonjour à tous.
Élodie, un cargo de 132 mètres s'est échoué au Tuamotu, un archipel de la Polynésie française, dimanche dernier.
Le cargo battant en pavillon philippin s'est échoué sur l'atoll de Raroya avec 18 membres d'équipage qui sont tous sains et saufs. Le navire transporte une cargaison de zinc. Un premier survol du navire par les services de l'État a permis de constater que le cargo reposait le long du platier sans aucune pollution détectée. Des premiers contacts ont été pris avec l'affréteur du navire basé aux Philippines et qui a dépêché sur zone une équipe spécialisée dans l'assistance aux navires en difficulté. Un remorqueur a été envoyé des États-Unis dès lundi, mais la société d'assistance a préféré ne pas l'attendre. Elle a demandé l'aide de la Polynésie française pour dégager le cargo en urgence pour éviter des dommages importants. Une tentative de déséchouement a donc eu lieu mardi dernier. Un navire de l'armée, le bâtiment multimission Bougainville, a été mis à disposition. Sa mission était donc de déséchouer le cargo et de le remorquer au large en attendant l'arrivée du navire spécialisé en provenance de San Diego. Mission réussie, sauf que le câble de remorque a cédé après l'opération. Et le cargo est de nouveau à la dérive. Un autre remorqueur a donc été envoyé en urgence de Papeete avec à son bord de nouveaux câbles, mais aussi des filets et des bouées anti-pollution, car si la situation est encore sous contrôle, la coque du cargo est endommagée et on n'est donc pas totalement à l'abri d'une fuite. Il faut préciser que le cargo était en fait en avarie moteur depuis le 21 juin sans avoir prévenu les secours. Il faisait route de Baltimore aux États-Unis à Hobart en Australie. Dans l'actualité aussi cette semaine en Polynésie française, un deuxième cas de dengue de type 2 a été détecté dans l'île de Raiatea 15 jours après la détection du premier cas. Les deux sont liés, selon les autorités, qui font tout pour éviter la propagation de la maladie. Sachant que la dengue de type 2 n'a pas circulé sur le territoire depuis l'an 2000 et que cet événement pourrait donc entraîner une épidémie de grande ampleur vu que la population n'est pas immunisée. Des actions de démoustication sont menées dans l'île de Raiatea et un appel est lancé à toute la population pour éliminer les gîtes larvaires à son domicile mais aussi sur son lieu de travail une fois par semaine. La polémique de la semaine, c'est la décision prise par la commune de Papeete de capturer les chiens des sans-abri de la capitale. Le maire, Michel Buillard, a affirmé qu'il s'agissait à la fois d'une opération contre des chiens agressifs et pour soigner ces animaux maltraités par leur maître, comme le raconte Radio 1. Mais le ramassage forcé de ces chiens a choqué la population et plusieurs SDF ont fait appel à la justice pour récupérer leurs animaux et ils ont obtenu gain de cause. La mairie a été condamnée à remettre les animaux de compagnie à leurs propriétaires et à verser une amende de 1 300 $.
Un anniversaire très symbolique en Nouvelle-Calédonie. Les accords de Matignon, c'était il y a tout juste 30 ans.
Le 26 juin 1988, la signature à Paris des accords de Matignon, accord de paix qui a réuni le FLNKS, le RPCR et l'État et qui mettait fin à des années de tensions. Il instaurait le rééquilibrage et le début de la décentralisation. Et à l'occasion de cet anniversaire, le Premier ministre Édouard Philippe a rendu hommage à l'Assemblée nationale, à Michel Rocard, Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur, les acteurs de ces accords de Matignon. Le Premier ministre en a profité pour insister sur la nécessité de poursuivre le dialogue en Nouvelle-Calédonie à l'approche du référendum sur l'indépendance. Depuis 30 ans, dit-il, le chemin est un beau chemin, pas toujours facile, c'est vrai, mais un beau chemin et un chemin partagé. Le 4 novembre, les Néo-Calédoniens vont devoir prendre une décision et à l'évidence, au fur et à mesure que nous nous approchons de cette date, les tensions, les inquiétudes, peut-être les incompréhensions se multiplieront et nous verrons une forme d'angoisse apparaître, a-t-il reconnu. Édouard Philippe prône un art de la paix qui repose sur le dialogue ininterrompu, exigeant, direct, qui accepte l'idée qu'on ne soit pas toujours d'accord, mais qui est fondée sur l'idée que nous ne devons pas rompre le fil. Rappelons à ce propos qu'à l'initiative du Premier ministre, un groupe de dialogue a justement été mis en place pour préparer l'après-référendum. mais ces travaux sont difficiles avec de nombreuses dissensions au sein de la droite loyaliste. Ce jeudi, c'est actuellement boycotté par 3 partis. Encore un mot du référendum qui est en bonne voie selon l'ONU malgré un contexte fragile. Les Nations Unies estiment en effet que la consultation du 4 novembre se prépare dans de bonnes conditions. Les partis signataires de l'accord de Nouméa ont fait preuve d'une forte volonté politique et de bonne foi, peut-on lire dans un rapport mis en ligne il y a quelques jours par l'ONU.
Et le groupe des leaders polynésiens s'est réuni cette semaine à Tuvalu.
Chaque année, ce groupe se réunit. Les dirigeants de 8 pays et territoires de la région s'entretiennent sur des problématiques communes. Et il y a notamment la Polynésie française et Wallis et Futuna. D'autres pays veulent rejoindre ce groupe. La Nouvelle-Zélande, Hawaï et l'île de Pâques sont candidates. Et il a été question justement de leur intégration. Il a été question aussi de l'établissement d'une charte du groupe et de la mise en place d'un secrétariat permanent. Le président de l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna, David Verger, a participé au sommet. Il a abordé des questions relatives au territoire, comme la desserte aérienne et maritime de Wallis et Futuna et l'intégration du territoire en tant que membre à part entière du Forum des îles du Pacifique. À propos de Wallis et Futuna, le bilan économique de l'année 2017 est plutôt bon selon l'IOM, l'Institut d'émission Outre-mer, qui vient de publier son rapport annuel pour le territoire. Et il estime donc que le bilan est positif grâce aux mesures mises en place par les élus, comme le rapporte la chaîne La Première. Il y a aussi l'avènement du câble sous-marin Tuhi-Samoa, une avancée technique majeure. Côté tourisme et environnement, à partir du mois prochain, un sentier de découverte de la mangrove sera ouvert au public à Wallis, à Veitupu plus précisément. Le futur itinéraire sera jonché de panneaux explicatifs, l'objectif étant de faire comprendre l'importance de cet écosystème indispensable qu'est la mangrove. Le projet est soutenu par le programme régional océanien avec aussi SOS Mangrove de Nouvelle-Calédonie qui aide le service local de l'environnement à la mise en place du projet. Et puis le 6e festival des arts mélanésiens commence ce dimanche aux îles Salomon. Une délégation calédonienne y participe. Près de 140 artistes représenteront le Caillou à ce rendez-vous dont l'ambition est de créer des espaces d'échange autour des pratiques et des savoir-faire, comme le précise La Première. Le thème cette année, c'est les souvenirs passés et les connexions futures. Et parmi les artistes calédoniens qui seront au Salomon, il y a Méré, une slameuse et conteuse qui fait la promotion de sa langue vernaculaire. Il y a aussi la chorale de Yombé, de la Grande Terre, et un certain Edmond chargé de transmettre le discours généalogique de sa commune. Le festival des arts mélanésiens débute donc demain à Honiara et ce sera jusqu'au 10 juillet.
Merci Elodie, à la semaine prochaine.
Merci, à la semaine prochaine.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.